Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour sa seconde et dernière émission du mois d'avril. Une heure avec vous jusqu'à 20h pour parler de nos actions, de nos combats et de nos prises de position pour la défense des droits humains. Et pour animer l'émission ce soir avec moi, il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Et il y a Edith.
Bonsoir.
Alors, comme d'habitude, nous avons un programme pour cette heure d'émission avec plein de sujets différents, donc restez avec nous. Et donc, on va parler de la France, mais pas que. On va parler de l'Iran, mais pas que. On va parler de différents pays d'Afrique, mais pas que. Voilà, donc on vous laisse pas mal de surprises. Et pour commencer l'émission, je voulais vous faire part de l'éditorial du président d'Amnesty France qui s'appelle Jean-Claude Samouillet, on en a déjà parlé ici à l'antenne, et qui revient sur ce qu'il faut bien appeler des tentatives de censure à l'égard d'actions que mène Amnesty International France et de conférences que différents groupes d'Amnesty ont quelques soucis pour organiser. Voilà. Et après, je ferai un petit développement parce que dans cette prise de position de Jean-Claude, il fait référence effectivement à la notion d'apartheid en Israël. Donc, je vais faire quelques rappels. On en avait parlé il y a quelques émissions du dossier sur l'apartheid en Israël. Mais c'est l'occasion aussi d'y revenir et de réexpliquer un peu notre position qui, à l'époque, avait été très mal comprise. Donc voilà ce que dit Jean-Claude. En mai dernier, la municipalité de Montpellier a retiré, 48 heures avant la conférence, le prêt d'une salle pourtant accordée depuis des mois. La soirée était consacrée à la présentation du rapport d'Amnesty International sur l'apartheid en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Les mairies de Marseille et de Toulouse ont également supprimé leur autorisation au dernier moment. Celle de Toulouse proposera une autre salle la veille de l'intervention parce que le sujet est politique. Parce qu'il y a des risques de débordement, tout ça entre guillemets bien sûr, pour des raisons de sécurité. Les universités aussi, que l'on imaginait comme des sanctuaires de la pensée et de la parole libre. Celle d'Aix-en-Provence a refusé une conférence sur l'apartheid, celle de Chambéry, une avec SOS Méditerranée, celle de Lyon 3 sur l'apartheid, puis une invitation du défenseur des droits égypto-palestiniens, Rami Chat. Les associations paroissiales, respectivement catholiques et protestantes, au Chesnay puis à Versailles, idem. Avec à Versailles une justification originale, risque que le chauffage tombe en panne. Et toujours à Versailles, des coups de fil reçus par les organisateurs de la part du service central de renseignement territorial qui ont dit « C'est une question à qui tout double, Salah Hamouri va-t-il venir » Sous-entendu, s'il est prévu qu'il vienne, la préfecture interdira la soirée. Une table ronde organisée par la mairie de Lyon avec Salah Hamouri, défenseur des droits des Palestiniens, avec qui je devais intervenir, sera finalement annulée. En décembre dernier, notre action 10 jours pour signer a dû faire face aussi à de multiples entraves. À Perpignan, où la mairie a refusé la tenue du forum pour les droits humains parce que nous sommes trop insistants et agressifs. Dans la vallée de l'Orche, parce que le cas de Zineb Redouane est un cas sensible. À La Roche-sur-Lyon et aux Abers, pas d'explication. Sur le marché de Rueil-Malmaison, parce qu'Amnesty International ne rend pas directement service à la population. Comme si défendre les droits humains, c'était pas rendre service à la population. Commentaire personnel. Alors je voudrais rendre un hommage appuyé à la détermination, c'est Jean-Claude qui parle, un hommage appuyé à la détermination sans faille, à la réactivité, à l'ingéniosité des militants d'Amnesty International et des associations avec lesquelles nous travaillons, qui ne lâchent rien et qui, dans la plupart des cas, ont trouvé des solutions alternatives. Qu'ils servent d'exemple aux responsables politiques, universitaires et associatifs. La liberté d'expression et de réunion est un droit fondamental. Il ne s'agit pas seulement de le tolérer, mais aussi de le protéger et de les encourager. Abdiquer cette responsabilité devant les pressions d'où qu'elles viennent est une faute majeure. Quant à nous, nous continuerons sereinement et résolument à alerter et à dénoncer les violations des droits humains, quels qu'en soient les auteurs. Donc voilà, on vous rappelle que ces tentatives d'empêcher de prendre la parole et d'organiser des réunions et des conférences, ça se passe en France, chez nous, et ce n'est pas dans un pays qui est considéré comme une dictature. Voilà. Et donc dans cet éditorial, Jean-Claude parlait à plusieurs reprises effectivement de la notion d'apartheid en Israël et du rapport qui est paru l'année dernière, signé par Amnesty International. Donc je vais y revenir effectivement à cette notion d'apartheid appliquée. Alors il faut le préciser, et je le préciserai tout de suite en introduction, pas du tout, parce qu'on nous a accusé bien sûr après d'antisémites, pas du tout par rapport à la population juive, bien évidemment, mais c'est l'État d'Israël qui est responsable de cette situation d'apartheid. En aucun cas, la population civile qui n'y participe pas est elle-même concernée par cette accusation. Bien évidemment que non. Et traiter effectivement Amnesty International d'antisémitisme, quand on sait ce qu'on a fait depuis plus de 60 ans, c'est vraiment une injure. Mais bon, donc voilà, le mot d'apartheid évoque immédiatement l'Afrique du Sud. Mais c'est aussi un crime contre l'humanité défini dans plusieurs textes de droit international qui peut se produire ailleurs dans le monde. C'est un système d'oppression et de domination d'un groupe racial sur un autre, institutionnalisé à travers des lois, des politiques et des pratiques discriminatoires. Par ailleurs, le crime d'apartheid suppose la commission d'actes inhumains dans l'intention de maintenir cette domination. Les trois instruments internationaux en matière de droits humains qui interdisent explicitement l'apartheid sont la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée en 1965, la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, adoptée en 1973, et le statut de Rome de la Cour pénale internationale, adoptée en 1998. Alors, pour caractériser un système d'apartheid, il faut notamment établir trois critères principaux, et c'est ce qui se passe appliqué par l'État d'Israël vis-à-vis des Palestiniens. Donc, premièrement, un système d'oppression et de domination d'un groupe local sur un autre. Un ou des actes inhumains, tels que transfert forcé de population, torture et meurtre. Une intention de maintenir la domination d'un groupe racial sur un autre. À l'origine, le terme apartheid a été utilisé pour désigner le régime politique de l'Afrique du Sud, de 1948 à 1991. À l'époque, le pays imposait explicitement la ségrégation raciale, instituant à travers tout un système de lois et de pratiques la domination et l'oppression d'un groupe racial par un autre, en l'occurrence celle des Noirs, par les Blancs. Lorsque l'on utilise le mot race ou racial, cela inclut en droit international la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique. Bon voilà, là, je ne vais pas vous lire effectivement toute l'explication donnée par Amnesty, qui rappelle aussi un peu plus loin qu'on a lutté évidemment contre aussi les phénomènes d'apartheid tels qu'ils sont pratiqués au Myanmar, enfin en Birmanie vis-à-vis des Rohingyas. On vous en a parlé plusieurs fois dans nos émissions, donc réécoutez les podcasts. Mais donc effectivement, ce qui se passe dans les territoires palestiniens occupés, c'est effectivement tout à fait caractérisé en termes d'apartheid. Et c'est l'État d'Israël, encore une fois, on n'insistera jamais assez, l'État d'Israël, qui est responsable, le gouvernement israélien, qui est responsable de cette situation. Et juste pour finir, avant de donner la parole à Claire Lise, je vais vous rappeler qu'il y a un documentaire qui est passé, alors je vous conseille de le revoir, il est en replay.
En replay, oui, ça doit être possible.
Il a été diffusé dimanche soir sur France 5. Ça s'appelle Hébron, Palestine, la fabrique de l'occupation. C'est extrêmement éloquent par rapport à tout ce que je viens de vous dire. C'est extrêmement parlant sur cette situation d'apartheid et la façon dont les droits des Palestiniens sont bafoués à longueur de temps. Et pour la réalisation de ce documentaire, ce sont deux cinéastes israéliens qui l'ont réalisé. Donc là, on ne peut absolument pas les taxer d'antisémitisme, c'est évident. Mais donc, il est en replay sur France 5, je vous rappelle le titre, Hébron, Palestine, la fabrique de l'occupation. Si vous avez un peu de temps, regardez-le, c'est très instructif. Voilà. Et je crois, Clarisse, que tu avais tout à fait autre chose à nous dire.
Oui, je voulais vous parler de ce qui se passe actuellement à Mayotte, département français. Voilà. Donc, on n'en parle pas beaucoup sur les ondes. Enfin, on en entend un petit peu parler depuis hier, parce qu'il y a une opération qui vient d'être déclenchée. On en entend parler à la radio, un petit peu moins à la télévision. Donc, juste vous rappeler que faisant un petit retour sur Mayotte. Donc Mayotte fait partie géographiquement de l'archipel comorien, dont elle s'est séparée des Comores en 1974 à la suite d'un référendum où les trois autres îles ont choisi l'indépendance. Elle est devenue département français en 2011, les Comores refusant toujours d'y reconnaître la souveraineté de la France. Alors Mayotte connaît une situation particulière, où pauvreté et délinquance atteignent des niveaux records en France. Avec l'arrivée de milliers de migrants venus essentiellement des Comores, mais aussi de Madagascar et de quelques pays d'Afrique, l'île est en proie à une crise migratoire depuis 2011. L'INSEE estime que la moitié de la population de Mayotte n'est pas de nationalité française, mais également qu'un tiers des étrangers sont nés à Mayotte. Dans un contexte de grande pauvreté à laquelle sont confrontées les personnes issues de l'immigration, mais aussi une partie de la population mahoraise, 67% de la population vit sous le seuil de pauvreté et le taux de chômage atteint 30% selon une députée interrogée. Cette cohabitation n'est pas toujours pacifique. Certains Mahorais soutiennent l'expulsion des immigrés en situation irrégulière, souvent majoritaire dans les bidonvilles, parce qu'en fait, ils sont en état d'insécurité. Mais plus que d'apaiser, l'opération donc, qui a été déclenchée lundi 24 avril, l'opération Wambushu, pourrait raviver les tensions. Les habitants clandestins de l'île se sont pour certains enfuis des bidonvilles pour échapper à l'expulsion, et ceux-là se disent prêts à accueillir les forces de l'ordre avec des cocktails Molotov et promettent une vengeance et des violences après la destruction du bidonville, donc une réponse à la guerre civile des Mahorais contre nous. Donc en fait la situation, l'opération donc baptisée Wambushu, attendez parce que je suis en train de faire le bazar dans mes fiches et je vais pas m'y retrouver après.
Mais si tu vas te...
L'opération nommée baptisée Wambushu, ça veut dire reprise en maorais. C'est-à-dire reprise du territoire, en fait. Donc, la conception de cette vaste opération est imputée, qui prévoit donc également la destruction des bidonvilles de Mayotte. Donc, la conception de cette opération, elle est imputée à Gérald Darmanin, qui aurait obtenu la validation du chef de l'État en février lors d'un conseil de défense, selon une source proche du dossier, à l'AFP. Donc, mi-mars, Emmanuel Macron a exprimé auprès de son homologue comorien, le colonel Azali Assoumani, son inquiétude face à l'immigration clandestine en provenance des Comores. On peut rappeler par exemple qu'en 2022, 571 embarcations transportant 8000 migrants ont été interceptées en mer et 25 380 personnes ont été reconduites à la frontière, très majoritairement vers les Comores. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe depuis longtemps. Donc, M. Darmanin a lancé une opération reprise du territoire qui a commencé le lundi 24 avril. Alors, cette opération, il y a eu une interview qui a été faite auprès de Madame... j'arrive plus à retrouver son nom. Je vais vous redire ça tout à l'heure parce que j'ai mélangé mes fiches, donc je sais plus où est le nom de la dame. Mais telle qu'elle est menée, cette opération est vouée à l'échec. On parle de ces gens comme si... Non, ne le mélange pas. On parle de ces gens comme si toutes ces personnes étaient des délinquants. Et ça rappelle un petit peu ce que Monsieur Darmanin veut faire avec sa réforme aussi en France. Vous savez, il veut faire partir les délinquants, les personnes en situation irrégulière délinquantes. Mais là, on parle de ces gens comme si toutes ces personnes étaient des délinquants à Mayotte. Il est question de chasser des milliers de personnes. Certains vivent sur cette île depuis 40 ans. Ils travaillent, ils ont des enfants qui vont à l'école, ils travaillent comme jardiniers, cuisiniers pour des Mahorais qui leur louent d'ailleurs les bangas. On en parle comme si c'était des personnes complètement étrangères à cet endroit et qu'il faudrait chasser parce qu'elles mettent le désordre. Mais c'est faire fi de la manière dont cette société est organisée. Et on se retrouve sans avoir pensé à quoi que ce soit avec une situation impossible aujourd'hui et ça ne se réglera pas. Alors, L'expulsion des migrants à Mayotte donc, a débuté et l'opération donc, a débuté le 24 avril et plusieurs organisations associatives ou syndicales, mais aussi des habitants de l'île, dénoncent cette politique, ses biais ou ses effets et appellent le gouvernement à l'interrompre. Alors, d'abord par rapport à la défense des droits humains, des droits de l'homme. L'opération Wambushu à Mayotte pose la question du respect des droits de l'homme et selon l'UNICEF ou la Ligue des droits de l'homme, la politique bafoue ses droits. La première organisation s'inquiète surtout du sort des enfants et la seconde décrit une opération qui viole les droits fondamentaux des personnes expulsées et qui est contraire aux engagements internationaux de la France en matière du respect des droits humains. Ces inquiétudes sont partagées par la défenseuse des droits, Claire Hédon, qui a assuré surveiller le déroulement de cette opération, notamment par la présence de 4 délégués sur place. La défense du droit au logement, l'accès et surtout le droit à disposer d'un abri est aussi mis en cause dans l'opération Wambushu, selon l'association Droit au logement, qui dénonce un projet risquant de briser des familles et de jeter les personnes expulsées dans la grande misère. L'association voit dans cette politique une opération anti-pauvre qui confirme une nouvelle régression des politiques du logement des classes populaires. On résorbe l'insalubrité, non plus en relogeant les habitants des quartiers informels, mais en les stigmatisant pour mieux justifier leur expulsion. Alors, on met en cause aussi l'efficacité, l'effectivité de l'aide au relogement. Si après la destruction des bidonvilles, les immigrants clandestins doivent être expulsés, les habitants légaux de Mayotte doivent être relogés selon la promesse du gouvernement. Mais plusieurs personnes ont pointé l'absence de propositions de relogement auprès de l'AFP, en faisant écho aux craintes de l'association Droit au logement, qui estime que Mayotte ne dispose pas des moyens suffisants de relogement, ni même d'hébergement au regard du nombre d'expulsions et de destructions envisagées. Il y a aussi un déni des droits par rapport au profil des personnes concernées. L'opération Wambushu, selon sa description par le gouvernement, doit permettre de réduire la criminalité en expulsant les délinquants issus de l'immigration illégale. Pourtant, le discours de Gérard Darmanin laisse entendre que toutes les personnes en situation irrégulière risquent d'être expulsées, peu importe qu'elles aient un lien ou non avec la délinquance. Pardon. Le risque de l'expulsion plane sur presque la moitié des habitants de l'île, car à l'inverse de la métropole, les enfants d'immigrés clandestins ne bénéficient pas du droit du sol qui accorde la nationalité française aux personnes nées en territoire français et naissent en tant qu'habitants clandestins. Ces jeunes ont leurs amis, ils ont l'école. Du jour au lendemain, pour certains, on va les arracher à tout ça et les renvoyer sur une île qu'ils ne connaissent pas. En sachant qu'ils vont chercher à revenir, de toute façon. Voilà. La fuite des immigrés clandestins, l'efficacité de l'opération Wambushu est aussi questionnée par son efficacité. Les descentes des forces de l'ordre étant attendues dans les bidonvilles, de nombreuses personnes ont quitté les lieux selon différents témoignages auprès de France Info et d'autres médias. Et cela pourrait se rendre de refuge en refuge et échapper au contrôle et donc à l'expulsion. Et puis, une aggravation des tensions sociales. Si certains migrants clandestins fuient, d'autres se soulèvent. Des affrontements entre groupes délinquants et forces de l'ordre se sont observés dès les premières heures de l'opération Wambushu à Mayotte le 24 avril. Cette politique risque de multiplier les altercations et d'aggraver les fractures et les tensions sociales dans un contexte déjà très fragilisé. Selon le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, Jean-Marie Burgu-Buru, qui a adressé une lettre au ministre de l'Intérieur le 17 mars. Alors, vous dire aussi que cette opération, on veut expulser les Comoriens, mais le gouvernement comorien, lui, a fait savoir qu'il refusait d'accueillir les Comoriens expulsés. Donc, ils vont aller où, tous ces gens ? On parle de 10 000 à 20 000 personnes expulsées. Donc, les Comores ont annoncé avoir refusé l'accostage d'un bateau transportant des migrants en provenance de Mayotte suite à Wambushu. Le gouvernement entend raser plus d'un millier de bangas des cases en tôle situées à Magicavo. Les Français doivent être relogés, les étrangers expulsés. Voilà, mais donc le gouvernement comorien, lui, refuse d'accueillir, les ressortissants comoriens. Cette prise d'opposition est... des organisations de la société civile comorienne ont tenu une conférence de presse le mercredi 5 avril pour alerter sur ce qu'elles considèrent comme un massacre à venir. Voilà. Et nous comptons sur saisir les organisations internationales pour les informer du massacre que la France veut perpétuer sur l'île. Alors, ils appellent ça l'île comorienne de Mayotte.
Oui, ils ont toujours pas reconnu
quand même. Mayotte. Alors, juste une petite lueur d'espoir quand même, c'est que c'est un revers judiciaire pour l'opération Wambushu. Le tribunal de Mamoudzou a suspendu l'évacuation d'un bidonville à Mayotte, prévu aujourd'hui. Mardi 25 avril, dans le cadre de l'opération contre la délinquance et l'habitat insalubre menée par le département français de l'océan Indien. Donc, la justice a suspendu l'évacuation de ce bidonville-là. Voilà.
Merci.
Alors, il faut se tenir informé de ce qui arrive.
C'est une
situation très complexe et qui concerne des milliers de personnes. Alors, c'est vrai que la situation des Maorais qui vivent dans une extrême pauvreté est difficile, comme certains territoires outre-mer ou départements d'outre-mer, ils sont un peu laissés à l'abandon quand même par l'État français
par
la métropole. Ils vivent dans une grande pauvreté, le chômage, et le fait d'avoir autant de personnes qui viennent, de migrants qui viennent d'une île encore plus pauvre, où il y a encore moins de moyens.
Les autres trois îles sont beaucoup plus pauvres.
Il y en a qui viennent aussi de Madagascar et d'Afrique. Et donc, du coup, ça crée une tension énorme. Et vouloir expulser tous les migrants, ça ne va pas être la solution. C'est pas la solution pour que Mayotte vive mieux.
Et juste en complément d'information, alors moi j'ai entendu ce matin, je ne sais pas si c'est vérifié. Oui, effectivement, on va passer à la pause musicale, il y a Edith qui me fait un petit signe, que en fait toute l'opération prévue par les autorités françaises était actuellement suspendue suite à la décision d'un tribunal qui l'a déclaré illégal.
C'est ce que vient de dire Clarisse, voilà.
Oui, effectivement, mais pas seulement sur un bidonville. Je crois que ça concernait tout ce qui était prévu au niveau des expulsions pour l'instant, donc c'est mis en suspens. Et donc. Deuxième information, il est bien évident que vouloir détruire des conditions d'habitation insalubres, etc., sur le principe, c'est pas quelque chose de révoltant, mais dans tous les cas, le droit international prévoit qu'avant de détruire l'habitation de quelqu'un, quel que soit l'état de cette habitation, il doit bénéficier d'une procédure de relogement. Et il n'y en a eu aucune proposition de relogement de fait à ces populations.
De relogement et de mise à l'abri des biens de ces personnes. Moi, j'ai entendu un témoignage.
C'est ça.
Il dit les frigos, les choses comme ça. Il faut se rendre compte, comme tu dis, des gens qui sont là depuis 30 ans, même dans du provisoire, d'avoir.
Ce qui fait peur aussi, c'est le non-discernement. Parce que le prétexte, c'est mettre fin à la criminalité. C'est ce que Gérard Darmanin dit par rapport aux personnes en situation irrégulière. C'est tous des délinquants. Il faut mettre fin à la criminalité. Mais en fait, c'est pas tous des délinquants. Il y a des gens qui sont en situation irrégulière, certes, mais qui ne demandent qu'à s'intégrer, à vivre. Et tous ne sont pas justiciables avec des délits, etc.
Évidemment.
Et ça fait peur sur ce qui va se passer après en France.
Évidemment. Mais là, il faut vraiment qu'on fasse la pause musicale.
On
se retrouve juste après.
Sinora, viens, on saute sur la piste. On se prouve que l'on vit, qu'on existe. On résiste, bien qu'on doute, qu'on hésite. On écoute les battements de cœur, les signes. Tant d'hélas, d'à quoi bon qu'on remplacera par nos rêves qu'on embrassera. Viens, on danse sur ces mots doux, cette Santeria, cette magie noire, ce vaudou. Sinora, yeah. Sinora, Sinora. J'ai chanté les hauts, j'ai chanté les bas sans attendre la victoire. Inventé des mondes et enchanté l'aube sans attendre le grand soir. J'ai bravé tous les dangers, Sinola. Toute cette beauté qu'on a fait, c'est nos larmes. Venant de l'au-delà, la musique est pour l'âme. Des chants d'Alabama aux prières de Brahman. J'avance, marche sur des larmes en jambes, des coulées de lave. Le diable dans les parages frotte façon Kizumba. Je vis dans mes chaos, je rembobine mes larmes, je reprends à zéro, je tire un rêve réel, la gâchette à mes lèvres, les mots fusent dans le ciel, se logent dans des comètes. Yeah, Sinara, Sinara. Sinora, Sinora. Sinora. Jumping in the line, rock your body all the time. Rock, rock. Jumping in the line, rock your body all the time. Jumping in the line, rock your body all the time. Jumping in the line, rock your body all the time. De la mer brillante Caraïbe aux rives Tanganyika. Combien de fois sommes-nous tombés, et pourtant, nous venons de si loin que l'on s'étonne encore d'être là, juchés sur les épaules des géants.
Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite de son émission sur la défense et la promotion des droits humains. On vient d'écouter un morceau de Gaël Faye.
Ouais, alors Gaël Faye, faut pas qu'il fasse des blancs, parce que Didier, il se demande si c'est la fin de l'émission, de la musique.
J'ai dans cru. Émissions,
non, la fin de la musique qu'il avait pensé plus longtemps.
C'était la fin du morceau, mais non.
Mais il est reparti, tant
c'était
mieux.
Pas tout à fait la fin. Bon, je,
eh bien,
crois,
c'est à
je
moi.
Crois que c'est à Edith
voilà,
de parler.
Voilà, je prends la parole, je la garde. Donc
tu
moi,
la gardes
un petit peu quand même, il semblerait que certains l'aient prise un petit moment quand même. Donc moi, ce que j'ai envie de vous parler, c'est un peu la problématique de la liberté de la presse. Donc deux exemples africains, bon bah c'est comme ça. Donc Algérie, parce que j'ai vu un article d'un journaliste Hissan El Kadi qui a été condamné le 2 avril à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis sur la base d'accusations infondées lié au fait d'avoir perçu des financements dans le but de se livrer à, je cite, « propagande politique » et de porter, je recite, « atteinte à la sécurité de l'État ». Et effectivement, peu avant son arrestation le 24 décembre dernier, Hissan El Kadi avait publié une analyse sur les prochaines élections présidentielles en Algérie en 2024, dans laquelle il critiquait le rôle de l'armée algérienne. Alors, cela, c'est le dernier journaliste qui a été pris pour cible par les autorités algériennes. Et Amna Ghelani, directrice régionale adjointe pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient à Amnesty International, cite que la constitution algérienne devrait protéger la liberté d'expression et la liberté de la presse. Et ce n'est pas ce qui se passe, car depuis quelque temps, les journalistes indépendants sont pris pour cible. Au cours des 2 dernières années, au moins 11 autres journalistes et professionnels des médias ont été poursuivis, arrêtés ou détenus. Cas extrême, en octobre 2022, le tribunal d'Adjé a condamné à mort le journaliste Abdou Semnar pour des accusations d'espionnage et pour diffusion de fausses informations susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale ou à l'ordre public, en lien avec son média en ligne Algérie Part. Le tribunal a condamné Abdou Semar, qui vit en France en tant que réfugié, par contumace et sans représentation juridique. Après l'avoir condamné, le juge a émis un mandat d'arrêt international à son encontre, ce qui dit que sa liberté de voyager va être très, très limitée. Abdou Semar, qui n'a pas eu accès à son dossier, pense que les charges découlent d'une enquête qu'il a menée en 2020 sur Sonatrach, l'entreprise nationale pétrolière et gazière. Donc il y a eu plein d'autres condamnations. En février, Farid Herbi, un journaliste fondateur de médias en ligne, car lui aussi il a critiqué des projets de développement de la préfecture sur le territoire de Bourmedès à l'est de l'Algérie. Le 8 février, c'est Mustapha Benjama, rédacteur en chef du journal algérien L'Indépendant, le Provincial, poursuivi en vertu de l'article qui l'accuse de réception de fonds étrangers. Ça, on en a beaucoup entendu parler hein, dans pas mal de pays quand on veut arrêter des gens en raison des sommes d'argent qu'il a obtenues pour aider la famille d'un détenu et pour publication de documents classés secrets. Le 4 février, c'est un autre journaliste, Saad Boukama, qui a été interpellé, placé en garde à vue au moins pendant 2 jours. Après, il a été remis en liberté provisoire, mais on lui a imposé une interdiction de voyager et on lui a ordonné de se présenter au tribunal toutes les 2 semaines. Alors lui, c'est parce qu'il a fait une publication sur Facebook de critiques concernant les projets du gouvernement local. Voilà ce qui se passe en Algérie. Et il y a en plus une fermeture de médias. Donc là, carrément, c'est des médias alors qui sont carrément fermés. Une action en justice qui a tenté la dissolution d'Interface Média avec une grosse amende en dommages et intérêts sur cet organe algérien de régulation de... l'amende, c'est l'organe algérien de régulation de l'audiovisuel qui la demande aux médias. J'avais passé une phrase un peu rapidement. Donc, ce qui se passe, c'est que... tout l'État algérien limite la liberté de la presse et Amna Ghelani, qui est responsable Amnesty, dit qu'ils se servent de lois fallacieuses pour bâillonner le journalisme. C'est complètement inacceptable. Les médias en Algérie devraient être libres d'exercer leur droit à la liberté d'expression et que protège le droit international. Donc là... c'est la situation en Algérie. Alors, je vais refaire aussi une petite aparté sur Burkina Faso. On en a peut-être entendu parler. Moi, j'en ai entendu parler au moins pour la radio, où effectivement, les autorités ont carrément boycotté des médias français pour démarrer. Hein. Donc, le 31 mars, c'est Agnès Fèvre et Sophie Douce qui sont correspondantes des journaux Libération et Le Monde qui ont été convoquées à la Sûreté d'État. Et le 1er avril, les deux correspondantes ont été sommées de quitter le pays sous 24 heures, mais sans aucun motif d'expulsion qui ne soit notifié, mais sous mode verbal. On leur dit bah, « faut mieux partir ». Donc expulser des journalistes pour avoir fait leur travail d'information et sans document officiel motivant cette mesure est abusif. Et Amnesty demande aux autorités de rétablir les journalistes dans leurs droits et leur permettre de continuer leur travail sur le sol burkinabé. Il y a aussi, ce même pays avait déjà, le 27 mars, décidé de couper la diffusion de France 24 sur son territoire à la suite d'une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et le contenu était contesté par les autorités taxant la chaîne de télévision de faire l'apologie du terrorisme. Déjà en décembre 2022, c'est Radio France Internationale qui avait subi le même sort. Amnesty rappelle que relayer les informations diffusées par un groupe ou un individu considéré comme menaçant la sécurité nationale n'est pas un motif valable de restriction du droit de la liberté d'expression. Donc là, on peut noter que c'est tous les médias français qui sont mis out. Mais ce qui s'est passé après les expulsions des correspondantes des journaux Libération, donc là, c'est ce qui s'est en dernier, donc après, au début mars, il y a une vidéo... largement diffusée sur les réseaux sociaux, qui accusait maintenant 3 journalistes burkinabés, Lamine Traoré, Radio Omega, Yassine Sanou, Studio Yafa, et Boukari Ouaba, Association les journalistes de Burkina, de complicité avec les correspondantes françaises, Douce et Fèvre, dans une manipulation déguisée en journalisme pour ternir l'image du pays. Donc voilà, on commence par les médias étrangers et on en arrive aussi par les médias du pays qui veulent avoir une liberté d'expression jusqu'au bout. Donc là aussi, Amnesty demande aux autorités de Burkina Faso que le droit à la liberté d'expression et de presse soit garanti par la constitution burkinabé, donc c'est déjà fait dans l'article 8, et qu'elle soit respectée.
Donc. Juste un petit complément d'information pour les auditeurs et les auditrices qui veulent joindre le geste à la parole et faire quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Je sais que sur le site de la section algérienne d'Amnesty, je l'ai vu récemment, il y a plusieurs actions en ligne, des pétitions et autres qui sont proposées pour défendre justement les journalistes qui ont été arrêtés récemment en Algérie. Donc, j'ai pas l'adresse de tête de la section algérienne d'Amnesty, mais il suffit de taper
Amnesty Algérie.
Il suffit de taper Amnesty Algérie sur Google et vous tomberez sur le site sans aucun problème. Il y a une version française. Il y a aucun souci pour les faire.
Pour terminer, là, je viens de retrouver une phrase du président Burkina Faso, donc Ibrahim Traoré, qui a également émis des propos menaçants contre les journalistes. Alors lui, ce qu'il pense, c'est tous ceux-là qui pensent qu'ils sont cachés à l'intérieur ou à l'extérieur, qui continuent d'informer, de communiquer pour l'ennemi, ils vont le payer. Donc on voit très bien la liberté de ce personnage, liberté d'expression.
C'est ça, exactement. Et je crois qu'on va changer complètement de pays. Et si mon petit doigt ne s'est pas trompé, je crois qu'on va partir en Iran.
Oui. Alors, on a beaucoup parlé d'Iran au moment où il y a eu les manifestations suite à la mort de... Ah, je ne me rappelle jamais son nom de...
Macha.
Et puis de toutes ces jeunes femmes qui avaient le courage, lors des manifestations, qui se coupaient les cheveux aussi.
Ça continue, il y a encore toujours sur les réseaux sociaux.
Et donc aussi, des millions d'écolières actuellement en Iran sont menacées d'empoisonnement dans leurs écoles. Alors... Quelques mois après le début des manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini, des écolières ont été empoisonnées et hospitalisées. Ces attaques au gaz dans des écoles primaires, des collèges et des lycées pour les filles se multiplient. Les autorités nient toute implication. Et nous alertons sur les risques de nouveaux empoisonnements et nous demandons l'ouverture d'enquêtes indépendantes. Donc la première attaque au gaz signalée dans une école de filles en Iran a eu lieu le 30 novembre 2022 dans la ville de Qom où 18 écolières ont été empoisonnées. Deux semaines plus tard, 51 écolières ont été empoisonnées dans la même école. Détresse respiratoire, palpitations cardiaques, nausées, vomissements. Des milliers de jeunes filles ont été victimes d'empoisonnement au gaz depuis novembre 2022. Les attaques ont d'abord été signalées dans la province de Qom et puis se sont étendues à d'autres provinces et sont devenues de plus en plus fréquentes. Plus de 100 écoles ont été visées, certaines plusieurs fois. Selon les médias indépendants et les organisations de défense des droits humains, les attaques les plus récentes ont eu lieu les 15, 16 et 17 avril dans plusieurs écoles. Ces empoisonnements non revendiqués semblent s'inscrire dans le cadre d'une campagne coordonnée et organisée visant à punir les écolières pour leur participation aux manifestations qui ont éclaté à la mi-septembre 2022. Depuis le début du soulèvement, les autorités iraniennes usent déjà de méthodes de répression violentes visant à étouffer le mouvement. Donc il y a un déni total des autorités. Depuis les premières attaques au gaz dans les écoles, les autorités ont cherché à dissimuler les informations et à déformer les faits pour minimiser les attaques. Elles ont par exemple attribué les symptômes ressentis par les écolières à du stress ou à une contagion mentale plutôt qu'à un empoisonnement. Un médecin iranien nous a informé que le ministère de la Santé avait publié un protocole à l'intention des centres médicaux du pays ordonnant au personnel médical d'attribuer au stress les symptômes dont souffrent les écolières à la suite des attaques au gaz chimique. Les autorités ont aussi tenté de réduire au silence les médias qui traitaient du sujet. Un journaliste a été arrêté pour son reportage sur les attaques au gaz dans les écoles. Malgré le dépôt de plainte de plusieurs familles, les autorités ne communiquent aucune information sur le suivi des enquêtes. Certains parents ont retiré leurs filles de l'école, craignant pour leur sécurité. En février, des journalistes indépendants hors d'Iran ont rapporté qu'une fillette de 11 ans était morte après avoir été empoisonnée lors d'une attaque dans son école à Qom. Les autorités ont réfuté ces informations et les médias d'État ont publié des articles citant une maladie virale respiratoire et une maladie rénale comme cause de la mort. Les membres de la famille ont confirmé publiquement cette thèse. Nous craignons que la famille n'ait été contrainte de faire ces déclarations sous la pression. Étant donné les pressions qu'exercent depuis longtemps les autorités iraniennes sur les familles des victimes pour leur extorquer des aveux forcés et publics confirmant les récits de l'État. Par ces attaques au gaz chimique visant délibérément les écoles de filles en Iran, ce sont les droits à l'éducation, à la santé, à la vie de millions d'écolières qui sont menacés. Nous demandons une enquête indépendante et approfondie. Alors comment agir ? Donc pour appuyer notre demande d'enquête indépendante et alerter sur la multiplication des attaques au gaz dans les écoles de filles, nous vous proposons un modèle de courrier donc sur le site d'Amnesty qui sera adressé au procureur général iranien Mohammad Jafar Montazeri et qui sera envoyé à l'ambassade d'Iran pour l'Union européenne. Vous pouvez aussi relayer l'information sur vos réseaux sociaux en parler, c'est déjà agir.
Ouais. C'est vraiment une bonne façon pour que peut-être les petites filles n'aillent plus à l'école non plus. Ça fait un peu penser. Oui,
tout à fait.
Voilà.
Et donc, on va passer à la deuxième pause musicale. Mais juste avant, je ne vais pas vous lire l'article parce qu'on va gagner un petit peu de temps. Mais je vous renvoie à la lecture de la chronique.
Tu les renvoies ? Mais non, il faut les garder, nos auditeurs.
Oui. Je vous parlerai du film de l'Iran, enfin, un film sur l'Iran, dont je devais vous parler à la suite, là.
Oui.
Mais je sens que je suis gentiment
coupée.
On en parlera une autre fois.
Non, on va passer un peu de musique, t'en parleras juste après, c'est tout.
Je ne sais pas si on va avoir le temps juste après, mais bon, c'est...
On va voir, de toute manière, je ne sais plus.
S'appelle Cet hiver à Téhéran, c'est un film qui est sorti
Il a été
au cinéma,
mais je pense qu'il n'y est plus, là, actuellement.
Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Ouais. Donc, dans la chronique d'Amnesty, on vous rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty France. Vous pouvez vous abonner sur le site d'amnesty.fr, n'hésitez pas. Et ça s'appelle Iran Amnesty en trompe-l'œil, parce que l'Iran a annoncé, là, au mois de fin mars, quelque chose comme ça, qu'on avait 22 000 amnesties pour des gens qui avaient été arrêtés pendant les manifestations avaient été prononcées. Mais quand vous lisez l'article, vous comprenez qu'en fait, c'est tout à fait en trompe-l'œil et que ces gens n'ont été libérés que suite à la... en ayant reconnu des crimes qu'ils n'ont pas commis, enfin, etc., et avec des aveux extorqués sous la torture ou les mauvais traitements. Et qu'en fait, c'est tout à fait une opération de com' des autorités iraniennes, mais que c'est pas vraiment...
C'est déjà bien, dans un esprit de respect
des droits humains.
Il y a eu une réaction, c'est-à-dire que même si effectivement ils sont dans des miroirs faux sur les annonces qu'ils font, ils se sont sentis un tout petit peu sur la sellette. Il faudrait qu'ils se sentent encore plus sur la sellette, je pense.
Donc on écoute un peu de musique et on se retrouve juste après.
Jeté dans les eaux. Un peu malgré moi, l'appel est si fort que je me perds un peu parfois qui on est, où l'on va. Au moins je sais qu'un bout de mon âme demeure chez toi. Congo, à l'image de ton fleuve, ton tumulte m'émeut et arrache tous mes masques. À nu je me jette à l'eau. Quel rôle m'offres-tu? Quel enfant suis-je pour toi, le sage ou le têtu? Celui qui t'aime, en tout cas, te l'ai-je dit, le sais-tu? Congo, avec toi j'aimerais me lever. Congo, avec toi j'aimerais danser. Congo, avec toi j'aimerais avancer vers des jours plus.
Présent passé, le futur un sentier de bohémien. Bout de toi, bout de ton âme, je suis. Ta sueur et tes larmes, j'essuie. Enfant du fleuve, des forêts, des villes. Les cupides ont dévoré nos vies. J'ai lu chaque ligne de la lettre à Pauline. Du fond de l'abîme, j'ai vu l'aurore opaline. Avance, je trébuche mais j'avance. Vers des jours plus heureux, je danse des rumbas raturés aux guitares saturées. Mégaphone à toute tête pour chanter.
Avec toi, j'aimerais me lever, Congo. Avec toi, j'aimerais la paix, Congo. Congo. Avec toi, j'aimerais me lever, Congo. Avec toi, j'aimerais la paix, Congo. Congo.
Je vois des vols à la trésor.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International. Excusez-moi, il y a eu un petit blanc, c'est une erreur de manipulation de la souris de ma part. Donc voilà.
On a pas eu... se faire peur.
On n'a pas eu les dernières 10 secondes du morceau. Mais bon, c'est pas très grave. C'était Gaël Faye, un deuxième morceau de Gaël Faye qu'il a chanté avec une chanteuse qui s'appelle Kolinga. Voilà.
C'était très agréable.
Je crois que tu voulais nous parler de santé et d'Internet.
Voilà, moi c'est donc toujours, comme dirait Didier, le bon magazine, la chronique, il faut s'abonner. Eh bien, c'est un article fait par un journaliste, Olivier Donard, qui est sur « Vos données de santé nous intéressent ». Alors, vous savez que j'aime bien tout ce qui est Internet et les dangers. Parce que ça peut être très bien, mais il y a aussi beaucoup de dangers. Et ces forums, ces sites de français, de santé, ces applis de grossesse et de mise en forme, chaque jour, nous semons sur le web des informations sensibles sur notre santé. Et bien cela, c'est une mine d'or pour des acteurs privés du numérique qui les récoltent sans que nous en ayons conscience. Alors, ces témoignages... donc 45% de Français estiment que c'est les informations qu'on peut donner dans ces sites parlant de sa maladie ou essayant d'avoir d'autres témoignages d'autres personnes souffrant des mêmes maux ou pour des médicaments. Donc 45% de Français estiment que ces informations font avancer la recherche médicale. Et pour 58%, donner son témoignage apporterait des informations précieuses sur des effets secondaires de médicaments. Mais ces témoignages n'ont pas tardé à attirer des start-up du web, à l'instar de Carinity. Je ne sais pas s'il faut le prononcer à l'anglaise ou à la française. Ça fait Carinity, c'est comme on veut. ce réseau social met en relation des communautés de patients souffrant d'une maladie chronique ou rare pour échanger sur leur pathologie et leur vie. Il compte près de 500 000 membres inscrits, couvrant ainsi 1 million de pathologies. Et ce site vend aussi les enquêtes et les études statistiques réalisées auprès des utilisateurs pour le compte de laboratoires pharmaceutiques ou d'institutions publiques comme le CNRS. Alors il explique, nous informons, donc c'est le directeur général Michael Schekroum, nous informons nos membres qu'ils peuvent participer à la recherche médicale en répondant de manière volontaire à des études commandées par des acteurs de santé, tient à rassurer ce directeur. Les données sont extraites puis rendu anonyme et agrégé parmi une dizaine, voire une centaine d'autres. Nous en tirons des statistiques qui permettront aux chercheurs et aux laboratoires de mieux comprendre les attentes, les usages, les comportements des patients dans la vie réelle. Alors, parmi ces clients, les laboratoires pharmaceutiques AstraZeneca, GSK, Pfizer, mais aussi l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM. Ces enquêtes sont vendues à quelques dizaines de milliers à plusieurs centaines de milliers d'euros, ajoute Michael Schekroum. Nous ne monétisons pas notre base de données, seulement nos résultats d'études. Donc, très convoité par l'industrie pharmaceutique à des fins de ciblage marketing ou d'analyse de marché, ces données personnelles intéressent aussi des secteurs comme l'assurance. Avec son programme Vitality, l'Italien Generali propose par exemple à ses assurés de porter des montres connectées récoltant divers paramètres physiques. Et l'assureur récompense ceux dont le comportement alimentaire et l'activité physique sont jugés vertueux. Déjà un peu plus gênant quand même. Alors le cadre français, c'est que les données personnelles, on ne peut pas les vendre, mais on peut les rendre anonymes. Et à ce moment-là, ce n'est pas interdit de vendre des données de santé si on ne retrouve pas l'identité des patients. Alors, il y a quand même eu un couac là. Donc, c'est une organisation anglaise, une ONG, Privacy International, qui a porté plainte contre Doctissimo, car le principal site français consacré à la médecine propose des tests de psychologie. Alors, Privacy International a constaté que Doctissimo envoyait en temps réel les réponses individuelles des internautes comportant les informations sensibles Qualifio, qui est un spécialiste du marketing interactif et prestataire de ces tests. Qualifio recueillait ces données en leur attribuant un identifiant unique. C'est ce que nous explique l'expert de technologie pour l'ONG anglaise. Ce qui signifie que si l'internaute fait un autre test sur un site de foot, par exemple, Qualifio le reconnaît immédiatement sous le même identifiant, ce qui permet à des sociétés high-tech de recouper les données et de faire de la publicité ciblée. Donc, Doctissimo, il y a eu l'enquête a été, il y a eu un jugement. Enfin bon, c'est passé au tribunal plutôt en novembre 2023. La CNIL a entendu Doctissimo. La CNIL a retenu plusieurs points de la plainte de l'organisation anglaise, la durée de conservation des données, le manquement aux obligations de consentement de l'internaute et celui à la liberté des données personnelles et à la sécurité de navigation. Donc il y a une amende qui aurait proposé de 380 000 euros et le dossier est toujours en cours. Donc c'est à suivre. Alors une autre façon aussi de se faire piéger, ça je ne le savais pas. Donc il y a des courtiers spécialisés dans la collecte massive et la revente de données d'utilisateurs. Ça s'appelle des data brokers. Ils sont aussi dans le viseur de la CNIL. La commission a diligenté des contrôles auprès de leur leader mondial, ICVIA. Alors ICVIA, je ne sais pas s'il faut dire les initiales, suite à une enquête de Cache Investigation. 40%, alors la CNIL avait autorisé à passer un partenariat avec 40% des pharmacies françaises. Donc chaque fois qu'on allait dans certaines pharmacies, le patient, on présente notre carte vitale, notre numéro de sécu, notre prénom, le sexe, etc. Tout ça, c'est marqué sur notre carte vitale. Et tous les médicaments que la personne a achetés, et cela s'était transmis à cette entreprise ICVIA. Et selon la CNIL, les pharmaciens étaient tenus d'informer individuellement les clients de cette collecte par voie d'affichage. Mais cette information qui fait défaut dans les officines. Et du fait, les clients perdent alors leur droit à s'opposer à la collecte et les données sont transmises sans notre accord. Donc là, je pense que si on va chez les pharmaciens, ça serait bien de demander parce qu'on se pose tous les questions en disant est-ce que ma pharmacie a eu cet accord-là ? Et effectivement, c'est quand même très, très rapide et très dangereux tout simplement d'aller acheter ces médicaments. Donc, même pour la santé, soyons vigilants.
Oui, et ça inclut ce genre de dérive, entre guillemets, ça inclut le fait que de toute façon nos données personnelles sont collectées à notre insu ou en grande partie à notre insu.
Ah bah à partir du moment où tu acceptes les cookies, voilà.
Oui, voilà. Et que donc effectivement notre vie privée s'en trouve directement comment dire, amoindrie, directement touchée. Donc ça c'est tout à fait contestable. Mais avant de commencer l'émission, on discutait justement et tu disais que c'était pas du tout idiot, c'est d'interroger nos propres pharmaciens pour savoir si eux-mêmes pratiquent ce genre de transmission de données.
Et voilà. Peut-être qu'il y a une petite affiche, on était en train de dire, peut-être en bas, là à droite, à l'endroit où personne ne voit, qui nous l'indique. Mais bon.
C'est ça.
C'est pas suffisant.
C'est ça. Et comme disent certaines personnes ici de la radio qu'on connaît bien, c'était pour les réseaux sociaux, mais quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Bah là, pour les données médicales, effectivement, on s'aperçoit que c'est nous le produit. Et que ça, c'est tout à fait quand même, ça laisse rêveur, quoi. C'est au moins qu'on puisse dire, hein. Et après, on peut aussi avoir des conséquences quand il y a des gens qui voudront, par exemple, dont les données médicales auront été compilées, piratées, enfin, etc., qui voudront souscrire des emprunts pour acheter une maison ou pour n'importe quoi, qui se les verront refuser parce que médicalement, ils seront dans des zones à risque. Voilà, ce genre de conséquences. On peut imaginer plein de choses comme ça.
Tout à fait.
Alors, voilà. Bon, je pense que je n'aurai pas le temps de vous parler du film Cet hiver à Téhéran. Parce qu'il y a un autre sujet
en 10 secondes.
Qui me... Ben non, mais vous m'avez bien quand même un petit peu mangé le temps là. Donc, il y a quand même un sujet qui me tient à cœur. Ça va être en quelques minutes, mais c'est sur la situation de l'hébergement d'urgence à Évreux. Donc, vous savez que la Mala a fermé.
Alors, la Mala, voilà.
La mise à l'abri l'hiver, la Mala a fermé le 31 mars. C'est légal puisque la Mala, elle est ouverte pendant la période hivernale. Donc, généralement, à partir d'octobre, novembre, c'est ouvert et ça ferme toujours le 31 mars. Toujours, pas toujours, parce que pendant la période de confinement, la Mala était restée ouverte et les personnes qui y étaient accueillies avait pu y rester pendant les périodes d'été. Et l'an dernier, la Mala, elle a servi à accueillir les Ukrainiens qui venaient d'arriver d'Ukraine, les réfugiés ukrainiens. Donc du coup, cette structure, elle peut quand même être ouverte en dehors des temps d'hiver. Là, elle accueillait les personnes qui étaient déboutées de l'asile, des personnes qui, des fois, sont dublinées. Et aussi, les lits d'hébergement d'urgence délivrés par le 115, il y en a pendant la période d'été, mais ils sont en nombre beaucoup plus limité. Actuellement, les demandeurs d'asile, donc les personnes qui arrivent pour demander asile...
Qui ont un dossier, qui montent un dossier.
Attends. En attendant qu'ils passent à la préfecture de Rouen, ils n'ont pas de place d'hébergement en tant que demandeurs d'asile puisqu'ils ne sont pas encore enregistrés au GUDA. Donc, des fois, ça peut prendre 3 semaines, voire un mois et demi avant qu'ils passent au GUDA. Déjà, ils sont à la rue. Parfois, le 115 pouvait faire le tampon un petit peu et les héberger. Actuellement, il y a des demandeurs d'asile, des familles. Moi, j'ai rencontré une famille avec 4 enfants, mais il y en a plusieurs familles actuellement sur Évreux. Un couple de Tchétchènes dont la femme est enceinte de 7 mois. Ils sont demandeurs d'asile. Ils ont leur récépissé d'asile. Ils devraient être pris en charge par l'État français avec les conditions matérielles d'accueil. Ils sont en procédure normale. Ils ne sont pas en procédure accélérée où des fois les conditions de matériel d'accueil sont refusées. Ces gens-là n'ont pas de place en hébergement. Et le 115 étant saturé, ne peut pas servir de tampon. Donc, il y a actuellement à Évreux des familles entières, plusieurs familles qui sont à la rue. Donc, si vous pouvez faire de l'hébergement solidaire, et c'est pas facile parce que des fois, une famille avec 4 enfants, ça fait 6 personnes d'un seul coup. Donc, je parle à des gens qui auraient une maison ou une annexe d'une maison. Si vous pouvez vous manifester, si vous pouvez héberger quelques personnes. Il y a aussi des mineurs non accompagnés. J'en avais 3 dans mon bureau cet après-midi qui n'ont pas d'hébergement et ils sont mineurs. Voilà. Ils ont 15-16 ans. Ils sont mineurs et ils sont dans les rues d'Évreux actuellement. Donc, si vous pouvez vous manifester soit auprès de la radio, soit auprès de l'association Un Toit Sous la Main, on cherche des personnes pouvant faire de l'hébergement solidaire. C'est impossible de laisser une femme enceinte à la rue. Je trouve ça inadmissible. Et j'ai écrit à l'OFI, hein, mais l'OFI ne répond pas. C'est pas la faute des structures d'accueil d'Évreux. Ils obéissent aux directives. C'est les directives ministérielles. C'est le ministère de l'Intérieur qui commande à l'OFI ou qui commande au 115, de toute façon, par le biais des préfectures. Donc, la volonté de ne pas ouvrir des lits, d'en ouvrir pour certains, on va dire, allez, ils ont la bonne couleur, et d'autres oui, pas, oui. Et ben, voilà, c'est scandaleux, parce qu'en attendant, ce sont des personnes des familles entières qui sont à la rue. Voilà.
Je vais juste faire un petit sous-titrage. Tu as parlé tout à l'heure du GUDA. Le GUDA, c'est le guichet unique des demandeurs d'asile.
C'est-à-dire maintenant, c'est de moins en moins ça. Maintenant, c'est plus à Évreux, c'est à Rouen.
Ça a toujours été à Rouen, madame.
Ah bon, bah écoute, mais c'est de moins en moins simple quand même.
La préfecture de région, c'est Rouen, qui s'occupe des demandeurs d'asile. Évreux s'occupe des titres de séjour.
D'accord.
Bon, on va toucher au terme de l'émission. Pour les gens aussi qui voudraient nous contacter, que ce soit par rapport à ce que vient de dire Clarlis pour les demandeurs d'asile ou pour toute autre raison, on peut aussi nous rappeler l'adresse mail d'Amnesty Évreux.
Enfin, il y a les demandeurs d'asile et puis toutes les autres personnes qui sont à la rue. Il n'y a oui, pas oui. que des demandeurs d'asile. Hein, oui, mais oui, il y a, oui. Notamment eux, ils ont des droits oui, oui. Et ils sont...
L'État français devrait leur donner ces droits-là.
Tout à fait. Donc, vous pouvez nous contacter aussi, on transmettra de toute façon évreux@amnestyfrance, tout attaché, amnesty avec un Y, amnestyfrance.fr. évreux@amnestyfrance.fr, donc n'hésitez pas. Et puis, nous, on se retrouve...
On se retrouve quand ?
On se retrouve pour notre prochaine émission qui aura lieu le mardi 16 mai.
On sera en mai.
Le mardi 16 mai à 19h, 19h à 20h, en direct sur l'antenne de Principe Actif. On va rendre l'antenne, on va laisser la place au laboratoire, effectivement. Et bonsoir, on se retrouve le 16 mai.
Bonsoir à tous.
Bonne soirée
à
tous.
Toutes.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.